Caroline Galacteros, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes géopolitologue et avec vous, on va essayer de développer une vision large et alternative, on peut le dire, sur l'Ukraine. Merci d'être avec nous.
Je vous en prie, c'est un plaisir.
Présidente du think tank Géopragma, et puis vous avez aussi été, vous nous direz si c'est toujours le cas, une des conseillères d'Éric Zemmour. Est-ce que déjà pour tout de suite planter un décor, on peut dire que ce think tank, est-ce qu'il est proche, simplement qualifié dans certains sites de pro-russe, mais ou simplement il a une pensée alternative? Est-ce qu'il réunit des gens qui ont une certaine vision de la diplomatie en France, de la position géopolitique de la France, pour juste caler et commencer réellement à rentrer dans le vif du sujet avec vous?
Non, Géopragma n'est pas un think tank pro-russe ni pro-je ne sais quoi. Si ce n'est peut-être que c'est vraiment, comme moi d'ailleurs dans mes analyses, un think tank France, c'est-à-dire effectivement qui se consacre à la réflexion pour pouvoir améliorer, réinventer un peu et remettre en place une stratégie, une pensée stratégique française et une politique étrangère qui aille avec et qui soit en accord avec ce que l'on perçoit de nos intérêts. Les gens qui m'entourent et qui travaillent avec moi sont tous des gens de grande expérience, effectivement, voilà, des diplomates, des militaires, des chercheurs, mais tout ça n'a rien de pro-russe. Non, contrairement, évidemment, aujourd'hui tout est tellement polarisé que on a bien envie de mettre les gens dans des cases, et surtout s'ils ont le malheur de dire des choses qu'on ne veut pas entendre. Mais moi, je suis une analyste. Hein. Je n'ai pas de parti à prendre, si ce n'est peut-être celui de mon pays, parce que j'ai longtemps travaillé pour l'État.
Donc, je vous posais la question de la visite surprise de Biden, Joe Biden, donc le 20 février à Kiev, qui n'était pas prévue. Vous et plusieurs analystes y voient une inquiétude américaine, et vous dites que vous décrivez la situation en Ukraine comme un pays sous perfusion à la fois militaire et économique, et notamment, par exemple, en termes de munitions, le pays est exsangue. Et à votre avis, l'Ukraine ne peut pas rattraper. Alors, je voulais vous interroger là-dessus et sur aussi la restructuration de l'armée russe. Pour vous, vous y voyez une possible refonte et renaissance de l'armée russe?
Des effets boomerang de cette guerre, guerre entre l'OTAN et l'Occident d'un côté, la Russie de l'autre, aux dépens de l'Ukraine. C'est-à-dire que, oui, effectivement, tout cela est en train, malheureusement, on peut le dire, de permettre à la Russie, en termes militaires, de se restructurer sur le long terme. L'économie qui est désormais mise en mode guerre, c'est l'armée elle-même qui, au gré de l'opération militaire spéciale et de l'escalade occidentale, et donc de la façon dont la Russie a dû, si vous voulez, s'adapter en permanence, suivant ses objectifs initiaux, eh bien, ça lui permet de remettre en place des cadences, des structures militaires intérieures dans les forces, de changer le commandement, de mettre des gens en poste. Enfin, il y a énormément de choses qui se sont produites que l'on n'avait pas imaginées, de la même manière que l'on n'avait pas imaginé, et c'est là tout le problème, qu'elle résisterait économiquement à une agonie de sanctions, si vous voulez. Donc, on est malheureusement aujourd'hui, malheureusement pour l'Ukraine, qui est la victime de tout ça, le pays, le peuple, on est dans une situation où effectivement militairement, l'Ukraine est bien sûr sous perfusion, mais ça a été dit, y compris dans la presse occidentale. Simplement, on met toujours des mois à admettre des choses que les analystes ou ceux qui suivent très très précisément ce qui se passe sur le terrain, évidemment, savent en avance de phase, si j'ose dire. Mais ça fait déjà des mois l'Ukraine est dans une situation à la fois en termes de ressources humaines militaires, puis en termes d'armement, dans une situation dramatique. Oui, elle est sous perfusion occidentale. Alors, dans tous les domaines, économiques et militaires.
Sur une année, donc depuis en gros le commencement de cette guerre, si on la date avec l'invasion russe, ce qui aurait été 10% du budget annuel militaire américain. Donc si les Américains mettent ces 10%, c'est une somme énorme. L'Union européenne, elle est à 30 milliards, ce qui est pas mal non plus. Qu'est-ce que les Américains, sans compter les aides depuis 2014, vous me direz en tant qu'analyste, à quel moment ça a commencé, est-ce qu'on peut les chiffrer et à combien, qu'est-ce que les Américains vont vouloir en échange? Est-ce qu'ils visent la reconstruction? Est-ce qu'ils visent des bases militaires? Est-ce que c'est simplement de l'altruisme et la défense d'une démocratie? Est-ce qu'on peut dire que c'est une démocratie? Une démocratie, en tout cas, c'est le narratif officiel. La démocratie ukrainienne.
C'est le narratif officiel. Vous savez bien qu'on fait toutes les guerres depuis 30 ans, toujours sous des motifs d'immoraux. C'est tout le problème. C'est tout le problème de l'Occident, c'est qu'on est vraiment dans. On va payer, nous, stratégiquement, les Occidentaux et les Européens, le prix de l'arrogance, le prix d'une obsession. On va le payer au plan mondial. Quant à l'Ukraine, on l'aide parce qu'elle se bat à la place des États-Unis contre la Russie. Elle considère que les États-Unis considèrent et que l'OTAN suit et que l'Europe suit. La Russie doit être abattue. Le problème, c'est qu'elle n'est pas du tout abattue. On est dans un vertige, dans une escalade, et donc dans une guerre qui dure pour plein de raisons. D'abord parce que nous la nourrissons, que les Russes, eux, sont dans une phase, dans un mode de guerre d'attrition. Donc d'une guerre qui va très lentement. Parce que contrairement à ce que tout le monde raconte, du côté russe, à préserver pour pouvoir tenir dans la durée, on cherche à préserver les troupes, les effectifs, si vous voulez. C'est l'inverse de ce que fait l'Ukraine.
Justement, sur cette guerre très lente que vous décrivez, je veux citer l'analyse de Pierre Servan, qui est également journaliste et également un expert en stratégie militaire. Et lui, il décrit, alors vous nous direz si ça c'est une information qui est hypothétique ou réelle pour vous. Je vous demanderai aussi de vous approcher un peu plus de votre téléphone, puisque votre voix disparaît un petit peu parfois. Pierre Servan, qui analyse en fait les offensives russes par vagues, c'est-à-dire des vagues inexpérimentées qui se font décimer, puis des troupes plus expérimentées. Est-ce que ça, c'est systématique chez les Russes? Quelles sont vos infos là-dessus?
Je suis désolée de le dire, je pense que l'idéologie aveugle les capacités d'analyse de Pierre Servan. Donc, il faut être sérieux. La Russie a des options tactiques et des manières de faire qui ne sont pas du tout des vagues. Il peut y avoir quelques hommes qui sont lancés, qui ne sont effectivement pas des troupes aguerries et comment dirais-je, et de haute valeur militaire, mais la Russie fait essentiellement la guerre avec de l'artillerie qu'elle n'engage pas, contrairement aux Ukrainiens, le même genre, le même nombre d'effectifs, et ça se voit dans les pertes, ça se voit dans tous les domaines, dans toutes les mesures que l'on peut faire, sur les pertes, sur les consommations d'obus, sur les blessés, enfin dans tous les domaines. C'est pas une question morale ou humaine. Alors qu'en ce moment même, à Bakhmout, on apprend, enfin, en tout cas, on dit que l'Ukraine en est réduite. Elle a tellement plus personne à envoyer qu'elle en est réduite à envoyer des troupes de haute valeur ajoutée. C'est quand même très grave. On n'est pas du tout dans ce qui est décrit par Pierre Servan, mais alors, pas du tout. Ce qu'on appelle le hachoir à viande, le meat grinder, il est russe et c'est des Ukrainiens qui tombent dedans, les malheureux. Mmh. C'est pas l'inverse.
Donc pour vous, en fait, aussi la Russie a des réserves, non seulement en termes de munitions, mais en termes humains, que l'Ukraine n'a pas ou n'a plus. Et c'est pour ça que votre analyse est plutôt sur l'écroulement de la résistance ukrainienne. Sur l'option que défend Pierre Servan, c'est-à-dire qu'il analyse comme vous la refonte de l'armée russe, mais au niveau de la rapidité de cette refonte, vous n'avez pas la même interprétation. Lui pense que ce sera plus lent et que l'armée russe étant assez disparate, ce qui est vrai, également trop centralisée au niveau du commandement, ce changement, cette restructuration, cette refonte est trop lente et qu'il analyse, lui, plutôt, enfin, il analysait plutôt une sorte d'implosion de l'armée russe à travers ces disparités. Est-ce que pour vous, c'est quelque chose de plausible ou pas?
C'est pas quelque chose de plausible. Je pense qu'on est dans la pensée magique là, c'est-à-dire c'est le wishful thinking, si vous voulez. Donc on voudrait bien que ce soit le cas, mais voilà, malheureusement, enfin je ne sais pas où Pierre Servan anticipe et comment il anticipe l'implosion de l'armée russe. Alors là, et ensuite, trop lente, pourquoi ? Tout ça, justement, cette guerre, malheureusement, comme beaucoup, est une guerre qui va se passer dans le temps, puisque du côté occidental et du côté américain, on est dans un entretien de la surenchère, y compris aux pertes, au prix de pertes humaines considérables du côté ukrainien. Parce qu'on continue à comprendre, c'est ce que j'appelle l'arrogance et c'est ce que j'appelle le prix d'une obsession, c'est-à-dire on continue à croire qu'on va pouvoir affaiblir sur le long terme la Russie en termes militaires, économiques, stratégiques et finalement politiques, là, du point de vue de Washington. Donc on est dans quelque chose qui va durer. Vous voyez bien ce qui s'est passé avec les propositions de paix chinoises qui ont été tout simplement renvoyées d'un revers de gant, n'est-ce pas, sur le thème mais c'est pas sérieux, c'est pas voilà. Donc on est malheureusement en Occident, c'est un problème qui est au-delà de cette guerre. On est dans une irréalité. On ne croyait pas que la Chine et la Russie s'allieraient de manière aussi forte. C'est arrivé. On ne croyait pas que l'Iran et l'Arabie Saoudite pourraient se reparler. C'est en train d'arriver. On ne croit pas que la Chine et l'Inde vont pouvoir mettre de côté un certain nombre de désaccords au profit d'un partenariat stratégique de plus longue haleine. Ça va arriver.
Justement, Caroline Galacteros, on parle du réel et le réel vient télescoper les discours comme vous le disiez, ce qu'on voudrait qu'il soit vrai. Il vient de le télescoper notamment notre ministre de l'économie qui avait, redonne ces mots, Bruno Le Maire, il y a un an environ, hein, donc qui allait provoquer l'effondrement de l'économie russe grâce aux sanctions économiques imposé à la Russie. Et puis, un an après, on se rend compte que le FMI prévoit une croissance pour l'économie russe plus importante que celle de l'Europe. Entre autres, d'autres indicateurs comme le PIB russe qui devait, dont les scénarios allaient jusqu'à voir une chute de 15%, qui aurait eu juste une chute de 2% finalement. Et quelle est votre lecture de ces indicateurs ? Bon, le FMI se trompe quand même régulièrement, mais est-ce que pour vous, il traduit une tendance générale qui est plutôt juste sur l'idée que, en fait, la Russie a mieux résisté et que l'Europe a été plus impactée que prévu également, dans le négatif ?
Complètement, mais c'est toujours la pensée magique, c'est-à-dire croire que l'économie russe, surtout après le tout début de l'opération militaire spéciale, qui ne s'est pas bien passée pour la partie russe, parce que ça a été sous-dimensionné, parce que les objectifs ont été déformés, parce qu'il y a eu des mauvais renseignements, etc., etc. On a voulu croire que l'économie russe allait, et le pouvoir de Poutine derrière. Rien ne s'est passé comme prévu. Nous sommes en train de nous prendre un retour de boomerang terrible, et surtout, stratégiquement, nous avons accéléré. Si vous voulez, dans cette guerre, et nous continuons de faire s'accélérer ce que moi j'appelle depuis des années la bascule du monde et qui clairement là a pris un tour radical et dont l'Europe sera bien sûr la victime première désignée. Parce que tant qu'elle n'est pas capable de se détacher des intentions américaines qui ne correspondent pas à ses intérêts, ni économiques, ni géopolitiques, eh bien, elle est contrainte, elle est coincée, elle est obligée de prendre des positions et des postures inutiles. On est, si vous voulez, cette guerre a montré que le monde est multipolaire. On essaie de à toute force de la rendre conflit finalement régional du point de vue du reste du monde global. Je sais pas. On voit bien que les trois quarts du monde ne veulent pas prendre parti et ont des intérêts infiniment plus prosaïques et très différents de ceux des États-Unis en Europe. Oui, c'est le développement chinois, hein, l'enjeu. C'est...
Donc les grands gagnants pourraient être notamment la Chine, la Russie, peut-être l'Inde et tous ces pays alternatifs qui sont pour l'instant non alignés sur ce conflit. Le grand perdant serait l'Union européenne, évidemment l'Union européenne qui rachète, suite au boycott des hydrocarbures russes, qui rachète à des pays tiers finalement, qui prennent un bénéfice au passage qui est assez surréaliste. pendant qu'on a froid et qu'on fait attention l'hiver, bah, c'est de l'argent qui est dilapidé. On achète aussi le gaz de schiste américain qui pose d'autres problèmes et qui d'ailleurs, c'est une forme d'exploitation qui a été interdite si je me trompe pas en France. Et puis aussi l'évolution des hypothèses sur le sabotage des gazoducs Nord Stream, qui au départ on avait laissé entendre que c'est les Russes qui sabotaient leur propre gazoduc. Alors ça, je sais pas si c'est soutenable comme hypothèse, pour arriver aujourd'hui à d'autres hypothèses, notamment celle levée par Seymour Hersh, ce grand journaliste américain, pour qui ce serait les États-Unis. Il y a aussi des hypothèses où ce serait un commando ukrainien. Il y a beaucoup d'hypothèses qui circulent, une piste anglaise aussi. Pour vous, en tout cas, c'est sûr que le sabotage de Nord Stream est aussi une volonté économique de pénaliser.
Pense que les Américains, en sabotant cela, alors avec les Norvégiens, avec les Anglais, etc., enfin, ils ont fait ce qu'il fallait, ils l'ont préparé de longue date, et ils l'ont même annoncé. Au moment où l'Allemagne regimbait sur les chars, regimbait sur le gaz, bon, et ben voilà, comme par hasard, le gaz est coupé. Est obligé de faire allégeance. De se reconfigurer d'ailleurs outre-Atlantique, et il est entendu qu'on repasse, enfin on passe l'énergie américaine au prix fort, sous prétexte de se libérer de l'horrible emprise gazière russe. Donc tout ça, voilà, on est, si vous voulez, c'est tout le problème de l'Occident, et c'est pour ça qu'il est, j'allais dire, il est immature par rapport à la marche réelle du monde. C'est qu'il reste dans une idéologie de guerre froide qu'il entretient, qui malheureusement ne va pas lui apporter, et je pense surtout à l'Europe, bien sûr, ne va pas lui apporter ni de bénéfices en termes, bien sûr, de crédibilité internationale, comme le nôtre, ni de force économique, parce que, en fait, nous sommes désormais extrêmement dépendants. Alors, effectivement, le gaz de schiste, n'en parlons pas au plan environnemental, il y a quand même là des. Quand on se gargarise toute la journée d'environnement et de transition énergétique, c'est risible. Voilà. Quant au scénario de Nord Stream, je pense que Seymour Hersh, qui n'est pas n'importe qui en effet, voilà, il a découvert le poteau rose. Le chancelier Scholz est allé en Allemagne voir Biden en tête-à-tête, et de ce rendez-vous est sorti l'option extravagante, mais qui en fait était à usage interne allemand, pour aider Scholz à subir politiquement, à mieux endurer politiquement la fureur des Allemands.
Qui gronde également.
Fait, l'Allemagne n'a rien dit. Donc on a eu le scénario ukrainien qui est totalement fantaisiste et extravagant. Quant aux Russes, oui, non, là, il ne faut pas exagérer. Je sais bien que. Je sais bien qu'on les accuse de tous les maux, mais enfin, ils ne sont pas à ce point masochistes de casser quelque chose dont ils attendaient énormément et depuis des années.
Alors, Caroline Galactéros, juste pour conclure en une minute, si vous aviez été aujourd'hui aux affaires, puisque vous êtes impliquée aussi politiquement, si aujourd'hui les choses avaient tourné autrement, que vous étiez aux affaires, ce serait quoi l'axe ou les deux axes que vous défendriez pour la France pour mieux s'en sortir vis-à-vis de la question ukrainienne et économique? Également.
Un point, je ne suis plus du tout impliquée politiquement. J'ai aidé un candidat pendant quelques mois de manière ponctuelle et c'est terminé.
Et si vous étiez, voilà. Si vous étiez nommée conseillère, voilà. Alors, si vous étiez nommée conseillère, peu importe.
Ministre, je ne sais quoi, mon axe, ce serait de retrouver tout simplement le courage d'une parole, parce que la France a de grands atouts. Et dans ce monde où il va falloir opérer des médiations, j'allais dire tous azimuts, sur tout un tas de points de tension, de conflit ou de guerre, notre alignement nous rend inefficace, inutile et pas crédible. Vous ne servez à rien quand vous êtes aligné.
Donc le désalignement.
Il faut se désaligner. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être les alliés des États-Unis, évidemment, mais ça veut dire. Il faut être très au-delà des paroles, comme celle qu'a pu avoir notre président de temps en temps, sur la Russie. Il faut être très au-delà de « il ne faut pas humilier la Russie ». Il faut prendre langue Il faut oser poser les problèmes tels qu'ils sont, et le problème de la sécurité en Europe est un problème considérable. Nous devons la rebâtir. Elle a été complètement détruite, et tous les appels du pied qui ont été faits par la Russie, y compris à quelques mois du lancement de l'opération spéciale, ont été superbement ignorés. Donc il faut revenir à cela, il faut revenir à la structure de neutralité qui doit être celle, à mon avis, de l'Ukraine, neutralité stratégique. Parce que sinon, c'est un conflit au très très long cours auquel nous nous préparons et qui va nous coûter extrêmement cher économiquement et socialement. Et moi, c'est quand même aussi le souci du peuple français qui est le mien.
On a bien compris votre analyse, désalignement, ce qui ne veut pas dire rupture des partenariats avec l'OTAN, par exemple. Merci Caroline Galacteros d'avoir été avec nous. Je rappelle aussi vos nombreuses invitations, notamment sur Sud Radio, où on vous retrouve. On peut continuer à suivre vos analyses. Et je vous donne rendez-vous dans quelques semaines, quelques mois, pour refaire un point sur cette situation à la fois de la guerre en Ukraine, mais à la fois économique et des conséquences qui en découlent. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.